maghrébin. Mais... Ils répètent ces espèces de vigilarquie qui évite l'accusation de racisme. On les recrute parce qu'ils sont maghrébins beaucoup plus que parce qu'ils font de bons vigiles.
Oui. Mais vous, vous n'avez pas votre mot à dire en tant que
ah non, je n'ai aucun mot à dire dans cette affaire. D'abord, le magasin Euromarché, c'est une entreprise privée. Cette entreprise privée est chez elle. Et tous les problèmes de délinquance et de criminalité, de police répressive, dans une grosse commune à police étatisée comme la mienne, sont du ressort de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Et d'ailleurs, c'est bien normal à l'État de prendre ses responsabilités au lieu de baratiner sur l'intégration.
Oui. Alors, dernière question, justement, puisque vous employez ce mot-là. Est-ce que votre expérience de maire de Sartrouville, ville dans laquelle on compte 20% d'étrangers...
Plus personnes qui sont... disons, qui donnent l'impression d'être des immigrés.
Qui ont la double nationalité
Oui, il y en a, puis il y a beaucoup de Français maghrébins, d'origine maghrébine, tout simplement, leurs parents sont algériens.
Qui sont en tout cas étrangers à notre culture, sinon étrangers à notre nationalité. Alors, à cette expérience, est-ce qu'elle vous fait dire que l'intégration est une utopie pure et simple? Est-ce qu'elle est possible et dans quelles conditions?
Non, moi je crois profondément qu'on peut vivre entre personnes de races différentes, ça ne doit pas poser de problème. À partir du moment où l'on s'accorde sur un contrat social commun, c'est-à-dire le respect des droits, des devoirs et des coutumes dans le pays où on s'est installé. C'est très simple. Alors maintenant, quant aux traits culturels, il y a des traits culturels qui peuvent être enrichissants, fertilisants, mais les traits culturels qui sont incompatibles avec nos lois, nos valeurs, qui ont 2000 ans, ou 2500 ans, qui nous viennent de Rome, d'Athènes, de Jérusalem, en passant par la chrétienté médiévale, évidemment, là-dessus, on ne peut pas transiger. On me demande, là, un doc de 40 jours en vertu des traditions de l'islam. Ici, on ne fait pas de deuil de 40 jours lorsqu'il y a un meurtre. Il y a peu de temps,
un meurtre de Français, on ne fait même pas un deuil d'une journée.
Oui, un employé de la SNCF a été assassiné par un étranger il y a 6 mois. On n'en a pas parlé, dans les journaux et nulle part. Et il a été, c'était un cheminot exemplaire qui s'occupait de son enfant collégien qui avait des difficultés. Il a voulu intervenir pour le cambriolage chez un voisin. Il a été abattu par fusil à pompe de sang-froid. Il y avait un Portugais et un Maghrébin. C'était le Portugais l'assassin, mais le Maghrébin était complice. Vous en avez entendu parler?
Pas vraiment, non.
Non, ça ne présente pas d'intérêt.
Mais c'est pas très intéressant.
D'ailleurs, ce qui leur pose problème aujourd'hui à tous nos ténors de l'antiracisme, qui font donc du racisme en permanence dans les attributions de logement, il faut le dire, il faut le répéter, c'est que là, le gros problème, c'est qu'ils n'ont pas un crime raciste.
Oui, c'est ça, ça les ennuie.
Ça n'est pas un problème, et vous verrez la Une du Monde, dans laquelle il y a encore des propos mensongers à mon propos, je dois le répéter, comme dans le procès devant la 17e chambre, ça devient ennuyeux, qu'à chaque fois on dit que mon arrivée sur les lieux aggravait les événements, alors qu'au contraire, elle les a atténués. Vous verrez que l'assassin est représenté sous la forme d'un Français blanc de souche, en caricature.
Alors
que c'est un maghrébin.
Alors, nous avons des réactions d'auditeurs. Si vous voulez les entendre avant que nous nous séparions, un auditeur...
Oui, le problème, donc, la télévision arrive pour que je passe en direct
alors,
à 5 à 20 heures.
Très rapidement, en général, les auditeurs sont frappés par votre analyse. Ils disent qu'ils la partagent et qu'elle est ressentie par de nombreux Français.
Parce que ce que j'ai dit sur les attributions discriminatoires de logement, en général, les gens ne l'ont pas bien compris.
Oui, je crois que c'est assez mal compris en général, mais c'est pourtant très clair.
Il faudrait leur expliquer que c'est un facteur en plus de surghettoisation. C'est-à-dire qu'il y a des ghettos, des faux ghettos, arrêtez, parce que c'est multiracial, multiculturel, multiethnique, multireligieux, multilinguistique, alors qu'un ghetto, c'est au contraire homogène. Mais enfin, comme dans cette société, on ne se connaît plus le sens des mots, et que la subversion, tout court, passe d'abord par la subversion verbale, alors appelons ça des ghettos, même si ça n'est pas. Ce phénomène d'entassement d'un certain nombre de populations allogènes dans des grands ensembles inhumains est un phénomène qui est considérablement renforcé par le fait qu'on empêche certaines des familles qui logent là dans des conditions d'entassement effroyables d'aller se loger à 400 mètres de là dans des logements, paraît-il, réservés aux Français blancs, mais dans lesquels des Français blancs ne veulent même pas aller. Monsieur Hubert Prévost a déclaré que dans ce cas-là, il vaut mieux laisser le logement vacant. Ce qui est, de sa part, un acte profondément délictueux et une déclaration qui viole la Constitution, la Déclaration des droits de l'homme, et qui est donc un acte de forfaiture. J'accuse Monsieur Hubert Prévost, secrétaire général d'intégration, d'avoir ainsi commis dans le Monde du 10 mars 1990 un acte de forfaiture par cette déclaration scandaleuse. sociaux, alors qu'il reconnaît qu'il y a plein de logements vacants. À Vaux-en-Velin, il y a quelques mois, il y avait encore 400 logements vacants. Alors, vous voyez le résultat de cette politique de gribouille. En réalité, on empêche des braves gens de couleur, y compris des Français depuis 300 ans antillais, de se loger dans des appartements alors qu'ils remplissent toutes les conditions normales et que ce sont des gens honnêtes, mais on ne veut pas sanctionner, en revanche, les gens de couleur qui se livrent à des délits. C'est phénoménal. Hein.
Oui.
Dans les deux cas, on viole gravement la Déclaration des droits de l'homme, la Constitution, la loi, le Code pénal.
Dernière question, est-ce que vous pensez que ce qui se passe en ce moment à Sartrouville va faire tache d'huile? Est-ce que c'est un épiphénomène? Est-ce que c'est la marque de quelque chose qui se produit dans toute la France en ce moment?
Ça se produit dans toute la France quotidiennement. Il y a une réaction d'autodéfense qui s'est finie par un meurtre affreux. Mais ces actes de délinquance impunis, cette passivité des forces de police, qui est remarquable, la police de Sartrouville, mais qui ne peut rien faire, paralysée qu'elle est par les ordres du gouvernement. Vous savez que quand ils sont lapidés, maintenant ils ne peuvent plus bouger.
Oui.
Et vous pouvez penser comme ils sont scandalisés. Eh bien, tout cela, c'est tout le temps qu'on le vit dans nos banlieues. Là, il y a un fait pointu et dramatique, tragique, qui est ce meurtre. Mais le reste, c'est la quotidienneté, et c'est ce qui aboutira, bien sûr, à de nouveaux meurtres. J'avais déclaré qu'il y aurait un jour un meurtre. J'ai déclaré en juillet à la tribune du Conseil général devant le préfet, qui a affecté 175 policiers dans le département des Yvelines, dont un seul à Sartrouville. Il y en a eu 30 pour Versailles, parce que le gouvernement socialiste protège d'abord les villes riches, et les propriétaires de meubles et de tableaux. Tout cela se retrouve le soir dans les dîners, et on demande au gouvernement, socialiste ou autre d'ailleurs, de protéger d'abord les riches. Entre nous, quand on vole la télévision d'un riche, c'est aussi grave pénalement que voler la télévision d'un pauvre, mais dans les faits, le pauvre en souffre bien davantage. Alors on parle de financer les communes pauvres par les communes riches, mais je ne dis pas qu'on ne s'occupe pas de la sécurité dans les communes riches, mais qu'on s'en occupe au moins autant pour les communes pauvres dans lesquelles l'insécurité est quotidienne.
Quand vous dites que la délinquance, en général l'insécurité est plus lourde aux pauvres qu'aux riches, on va vous dire que vous parlez comme Le Pen. Comment réagissent vos amis libéraux?
Peut-être Le Pen l'a-t-il dit, mais tout le monde peut le dire. Vous savez que quand on est cambriolé, on est volé deux fois. On est volé par le cambrioleur et une deuxième fois, on l'est sous une forme légale par l'assureur. Tout simplement parce que l'appareil de télévision, vous avez payé 4500 francs et que vous payez encore à crédit si vous êtes pauvre, on va vous rembourser 800 francs. Si vous voulez en acheter un de la même qualité, il faut vous payer 4500 francs. Le riche, ça lui est pas grave. Le pauvre, quand il gagne 5500 francs par mois, c'est dramatique. L'ancien directeur de cabinet du préfet, qui est un ancien gendarme, m'a expliqué que la délinquance, c'était pas grave, et les cambriolages, ainsi que les vols de voitures, tout ça, c'était de la petite délinquance qui ne présentait pas d'intérêt pour les pouvoirs publics.
C'est ça, sauf quand il s'agit...
Il m'a dit au téléphone où je vous parle en ce moment.
C'est ça, sauf quand il s'agit de Madame Banater, maire, qui se fait voler sa bague.
Ah bah oui, je pense
quoi, on mobilise toute la police parisienne.
Il m'a volé les appartements, par exemple, du président de la SIC, l'antiraciste discriminateur, son bel appartement de la rue Blomé. Ça, il faut le protéger, lui.
Monsieur Wetzel, je vous libère puisque vous avez d'autres journalistes qui vous attendent.
Puisque l'on me situe à droite, je suis par essence raciste, mais tout ce qui se situe à gauche est par essence antiraciste.
Antiraciste, mais ça
et
c'est
moi,
parfaitement clair.
Moi, je viens d'être accusé par l'élu communiste en place d'être co-responsable de ce meurtre.
Ah oui, c'est
voilà,
très beau.
Voilà, rien que ça. Bon, les propos diffamatoires de ce genre, j'en ai
c'est
su
intéressant.
Tout le temps.
Oui, mais venant des communistes, c'est vraiment pas très inattendu.
Une partie des maghrébins qui ont manifesté en m'insultant cet après-midi étaient des maghrébins complètement noyautés par le PC, qui me traitaient d'assassin. Bon, écoutez, si on me laisse traiter d'assassin, et si les pouvoirs publics trouvent ça normal, je leur en laisse la lourde responsabilité.
Je crois que vous avez parfaitement mis les montres à l'heure, comme on dit,
vous
exprimant sur Radio Courtoisie. Je vous remercie de l'avoir fait aussi complètement.
Je
vous souhaite très bon courage dans votre action.
Merci, monsieur.
Au revoir, monsieur Wetzel. Voilà, c'était en direct le témoignage de monsieur Wetzel, qui est maire de Sartrouville. Je rappelle que c'est quand même pas n'importe qui, ce monsieur, puisque c'est lui qui a pris au collet Marcel Paul il y a quelques années et qui avait démontré la formidable imposture que les communistes avaient construite sur la prétendue résistance dans les camps de Marcel Paul. Marcel Paul qui était un capot et pas autre chose, ce que Wetzel a établi d'une façon lumineuse en historien qu'il est. Et il a subi à cette époque-là des pressions absolument terribles pour le faire taire, absolument terribles. Et Il a recommencé par la suite en dénonçant effectivement la politique du logement des immigrés, qui est un véritable scandale. Et c'est un homme courageux. Je crois simplement, et je le dis parce que je le pense et que ça me paraît nécessaire de dire ce qu'on pense, je crois simplement ce que le maire de Sartrouville a pu faire, a pu dire, il n'aurait pas pu le dire et il n'aurait pas pu le faire s'il n'avait pas été président ou vice-président de l'association France-Israël. Parce que ça lui offre une caution absolument une caution magique, oui. C'est-à-dire qu'effectivement, à part quelques dégénérés, peut-être maghrébins ou d'origine maghrébine, qui gueulent au racisme devant ces fenêtres parce qu'ils n'ont pas tout compris, il est évident que en aucun cas, sa position ne peut être inspirée par des sentiments racistes, puisqu'il est président de l'association France-Israël, ce qui exclut totalement l'hypothèse du racisme. En tout cas, c'est un homme courageux, et c'est un homme qui a affronté une situation extrêmement difficile, puisqu'on avait des journalistes à Sartrouville tout à l'heure qui m'ont téléphoné en me disant « La mairie est en état de siège, il y a 200 à 300 maghrébins qui entourent la mairie, et qui n'en sont séparés que par un mince cordon de CRS, et visiblement, ces gens-là ont l'intention de faire un mauvais coup. » Alors, je ne sais pas comment va se passer la nuit, je ne suis pas du tout prophète, mais il ne faudrait pas s'étonner de voir Sartrouville prendre la place du chaudron. Il faut croire que maintenant, toutes les semaines, on va avoir nos émeutes raciales, nos émeutes ethniques en France, que ce soit en France métropolitaine ou en France non métropolitaine. Je ne sais pas comment ça finira. Ça finira probablement assez mal parce que il est évident que je peux dire une chose, par exemple, puisqu'on en a fait la vérification cet après-midi en téléphonant, c'est que en ce moment même, à Vaux-en-Velin, dont personne ne nous parle, eh bien, les malversations continuent. Les bandes de voyous, toutes les nuits, continuent à voler des voitures, à faire des rodéos, à casser des voitures. Les policiers sont systématiquement agressés. On leur a interdit de porter plainte, interdit d'informer la presse de ces actions, et c'est au point que, tenus au devoir de réserve, sous peine de perdre leur place, ils ont été obligés de demander à leurs femmes, qui elles, étant civiles, ne sont pas tenues au devoir de réserve, d'aller voir les journalistes de la région pour leur dire ce qui se passait à Vaux-en-Velin. Mais comme la presse locale est à peu près totalement noyautée par l'ordure socialiste, eh bien, les informations ne sortent pas, et ça sort un petit peu dans quelques journaux parisiens. On voit des entrefilets par lesquels on apprend qu'à Vaux-en-Velin, il y a eu de nouvelles agitations. C'est sans arrêt partout en France comme ça. Je suis allé récemment à Castres avec Bernard Anthony. Il y a un quartier dans Castres dans lequel Bernard Anthony ne peut pas entrer parce qu'il y a des veilleurs qui montent la garde devant ces quartiers pour prévenir, comme ce sont des quartiers de voyous immigrés dans lesquels se passe du deal de drogue, du recel d'objets volés, etc. Il y a donc des veilleurs qui sont censés annoncer l'arrivée de la police, qui n'y va jamais naturellement, et quand ils repèrent la voiture de Bernard Anthony, ils préviennent, et en deux minutes, toute la population descend dans les rues, et la voiture de Bernard est lapidée. Enfin, c'est tout à fait extraordinaire. Il y a des endroits en France où un Français de souche ne peut pas circuler, où la police est interdite. Il y a 400 cités immigrés ou étrangers ou d'étrangers en France, 400 cités dans lesquelles la police n'a pas le droit d'entrer. Parce que les occupants de ces cités l'ont interdit et parce que le ministre de l'Intérieur a donné des ordres immédiatement répercutés par les préfets qui sont des loufias. Et c'est normal, c'est leur boulot, je veux dire, ils ont été mis là pour ça. Les policiers n'ont pas accès là. C'est-à-dire que ce sont des lieux qui deviennent bien des repères de receleurs, de trafiquants de drogue, de voleurs, d'assassins, qui sont là en toute impunité, sans travailler, parce que naturellement, ils touchent le RMI, et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je ne pense pas que ça pourra durer indéfiniment. Je pense que tout ça va déboucher... Comment ?
Débouchera peut-être sur le 51e État des États-Unis d'Amérique, où ça se passe comme ça depuis 40 ans avec les Noirs, et où il y a 25 000 morts par an en Amérique, et on ne fait rien. Et la population est suffisamment abrutie, habituée à ces violences ou ghettoisée mentalement et physiquement pour supporter cette engeance. Alors est-ce que la France, qui est un pays deux fois millénaire alors que l'Amérique est deux fois centenaire, va pouvoir réagir ou est-ce qu'elle va se laisser crever en tant que deuxième Hawaï ou deuxième État de New York ? Ça, c'est ce que l'histoire nous dira.
Voilà, je pense qu'il n'est pas utile d'en dire plus. L'actualité de cette nuit et de demain matin nous expliquera probablement si nous avons raison de nous faire du souci ou pas. On verra ce qui va se passer à Sartrouville, mais ce qu'il faut dire, c'est vrai, ce que dit une auditrice qui nous appelle, les mêmes faits, ou peu s'en faut, se produisent dans n'importe quel arrondissement de Paris, pas seulement dans n'importe quel arrondissement, sauf dans le 7e, bien entendu, et parce que je vous garantis que dans ce coin-là, si vous essayez de faire une manifestation de maghrébins, elle ne va pas être réunie rapidement.
Pourtant, il y a eu le...
Ça, c'est pas autre chose. Hein. Mais c'est la partie du 7e qui n'est pas bien fréquentée, ça. Je dis ça se produit pas seulement dans les arrondissements de Paris, mais aussi dans toute la France, à Castres, à Toulouse, à Marseille, bien entendu, à Lyon, à Vaux-en-Velin, à Lille et dans la banlieue lilloise, à Paris et dans toutes les banlieues, à Brest, dans les banlieues des villes de l'Ouest, de Bretagne, de Normandie, dans les banlieues des villes alsaciennes. J'étais l'autre jour à Strasbourg, c'est-à-dire j'étais tout à fait étonné de voir que la banlieue de Strasbourg, alors que l'Alsace est plutôt préservée, c'est des Turcs, oui, c'est ça. C'est pratiquement une ville de Turquie. Il y a des coins qui sont des villes de Turquie avec des affiches en turc, des radios turques, des journaux turcs, des hommes turcs, des femmes turques. J'ai absolument rien contre les Turcs, mais en Turquie. J'aime bien les Turcs en Turquie. En France, individuellement, oui. Par paquet de 12 000, moins, faut bien dire, quoi, quand même. Voilà. Nous allons écouter un tout petit bout de musique, peut-être pour nous détendre. Tant qu'on a encore le droit d'écouter de la musique française, il faut en profiter.
Allô, allô, James, quelle nouvelle? Absente depuis 15 jours. Au bout du fil, je vous appelle.
Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Un incident, une bêtise, la mort de votre jument grise. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien.
Allô, allô, James, quelle nouvelle? Ma jument grise, morte aujourd'hui. Expliquez-moi, allez fidèle, comment cela s'est-il produit?
Cela n'est rien, madame la marquise. Cela n'est rien, cela n'est rien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Elle a péri dans l'incendie qui détruisit vos écuries. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien.
Allô, 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 James, quelle nouvelle?
Bien, eh ben, on va maintenant revenir à des choses un peu plus sérieuses, et puisqu'on dit que tout va très bien, on peut pas du tout nier que tout aille très bien, puisque on nous apprenait hier que la guerre du Golfe, parce que la guerre du Golfe, elle sert à tout. Quand quelque chose marche, c'était parce qu'on a fait la guerre du Golfe et qu'il fallait la faire, et la preuve qu'on a eu raison, c'est que ça marche. Et quand quelque chose marche pas, c'est parce qu'on a fait la guerre du Golfe, qu'on pouvait pas faire autrement, et maintenant il faut bien sûr payer les dégâts. Alors, on nous avait dit, il faut faire absolument la guerre du Golfe parce que les prix du pétrole vont augmenter d'une façon formidable et ça va être terrible pour notre économie. Donc on a fait la guerre du Golfe, moyennant quoi d'ailleurs, ni pendant la guerre, ni après, les prix du pétrole n'ont augmenté ni plus ni moins que d'habitude. Je rappelle quand même au passage que l'augmentation des prix du pétrole, c'est dû exclusivement aux taxes prélevées par l'État socialiste, qui étaient d'ailleurs les mêmes taxes prélevées par l'État giscardien et par l'État gaulliste avant. Mais toute cette musique, on la connaît par cœur. Et puis là, on a appris hier qu'il y avait donc 40 000 chômeurs de plus à cause de la guerre du Golfe. D'un seul coup, il nous tombe 40 000 chômeurs de plus sur la tête.
45 000
même, nous dit Jacques Deschanel. Alors, j'ai trouvé que c'était l'occasion ou jamais d'inviter quelqu'un qui a l'énorme culot de dire on peut faire quelque chose contre le chômage. C'est Jacques Deschanel qui est venu avec Jacques Padeloup. Alors, Jacques Deschanel, je vais te demander de te présenter, puisque il y a deux Jacques.
Oui, je suis le secrétaire général de l'Union nationale des fronts anti-chômage. C'est une association qui a été créée en 87. Et depuis, nous essayons avec nos moyens qui sont plus que modestes de trouver du travail aux chômeurs français. J'insiste. Il paraît qu'il ne faut pas le dire, mais enfin, j'insiste sur la nationalité française des chômeurs dont je m'occupe. Nous avons réussi à mettre sur place un réseau qui, tant bien que mal, nous amène beaucoup de chômeurs, cela va sans dire, mais aussi pas mal de chefs d'entreprise qui s'adressent à nous parce qu'ils pensent que chez nous, on peut trouver des Français qui ont conscience de leur profession, conscience de leur travail, et ce qui nous amène à dire que très prochainement, au bout de 4 ans, nous allons peut-être placer le 1000e chômeur français. En 4 ans, c'était évidemment pas beaucoup, mais...
Ça fait pratiquement un chômeur placé par jour ouvrable.
Ah, j'avais pas fait...
Et oui, 250 multiplié par 4, ça fait 1000. Et il y a 250 jours ouvrables dans ce beau pays.
Toutefois, lorsqu'on en prend les nouvelles de ce matin, notre rendez-vous n'est prévu que depuis quelques jours, mais...
Mais tu vois, Jacques, quand même, c'est extraordinaire parce que toi, tu mets 4 ans pour faire 1000 travailleurs de plus, tandis que l'État socialiste, lui, en 4 jours, il te fait 40 000 chômeurs. C'est quand même beaucoup plus fort que toi.
40 jours ou 28?
Je ne sais pas, 28 jours.
C'est le mois de février, par exemple.
Oui, c'est ça. Alors, c'est en 28 jours. Ils font 40 000.
Moi, ce qui me plaît, si je peux me permettre, ce sont les titres. Je reviendrai au front anti-chômage après. C'est Le Parisien, la guerre fait exploser le chômage. L'humanité, ils ont toujours des propositions, mais sont toujours en retard d'un demi-siècle. Le quotidien, chômage, l'alerte.
Ça, l'alerte, c'est un peu comme quand le Titanic a coulé, oui. Le dernier type qui a sauté à l'eau, on pouvait dire qu'il donnait l'alerte, c'était peut-être un peu tard.
Alors, évidemment, c'est la guerre du Golfe, mais enfin, il ne faut quand même pas oublier, l'Union nationale des fronts anti-chômage étant une émanation du Front national tout court, il ne faut pas oublier que l'analyse de Jean-Marie Le Pen, le président du Front national, était bien dirigé pour que nous n'allions pas fourrer nos guêtres dans cette espèce de galère qui a été cette guerre du Golfe. Évidemment, il fallait cette guerre pour permettre maintenant à nos politiciens de dire c'est la guerre du Golfe qui nous amène à constater que les entreprises n'ont plus voulu embaucher parce que elles ont un petit peu traîné les pieds parce qu'elles ne savaient pas comment ça allait faire. Les taux américains ont augmenté, nous ont baissé, les autres étaient là-bas, on ne savait pas sur quel...
Oui, enfin, tout ça, c'est du baratin, personne n'y comprend rien.
C'est du baratin du gouvernement socialiste et de la presse qui est aux ordres.
Alors, quelle est la structure du Front anti-chômage ?
Alors, le Front anti-chômage, structure, elle repose sur... 3 personnes, c'est-à-dire le président Noël Lantz qui en a eu l'idée, qui en a parlé à Jean-Pierre Revaux qui à l'époque était député de Lyon et qui nous a permis donc de nous installer rue Clergerie où nous pouvons bénéficier des machines à écrire, des téléphones, du papier. On ne profite pas encore des secrétaires mais ça ne saurait tarder. J'ai mon ami Jacques Pradeloup qui, dès le départ, s'est intéressé à notre action et étant donné qu'il est spécialiste du Code du Travail, m'a dit « Je suis à ta disposition » et ça d'une façon tout à fait bénévole. Parce que ce qu'il y a de bien chez nous au Front anti-chômage, c'est qu'il n'y a que des bénévoles. personne ne touche l'argent, pas toucher de l'argent des chômeurs, ils n'en ont pas. Alors on va faire comme les syndicats, qui, vous arrivez chez eux, ils vous disent « est-ce que tu as ta carte ?» Nous, on prend pas de carte, on prend pas d'adhérents, on a des chômeurs, je mets entre guillemets des clients qui cherchent du travail. Et nous avons d'autre part des clients qui sont industriels, petites ou moyennes entreprises, et qui s'adressent à nous, comme je le disais tout à l'heure, parce que nous sommes sérieux et nous essayons de faire au mieux pour sauver quand même des gens qui sont dans la mouise, c'est le moins qu'on puisse dire.
Est-ce qu'il y a des représentations en province?
Alors en province, oui, comme je disais, nous datons de 1987, mars 1987. À l'époque, nous étions en pleine préparation de la campagne présidentielle, si bien que les fédérations Front National n'ont pas pu donner tout ce qu'elles pouvaient donner sur le plan social, ce qui pour moi a été une grave erreur, car un chômeur placé, c'est au moins 2-3 voix de gagné. Alors, nous avons eu en premier la PACA,
c'est-à-dire c'est la Provence Côte d'Azur.
Côte d'Azur, Alpes, Provence Côte d'Azur. Et tout dernièrement, d'ailleurs je l'avais noté dans la dernière édition du Chômeur français, c'est la Loire-Atlantique qui a créé un FAC départemental.
Alors, donc le système est le même, c'est-à-dire que les gens se présentent au niveau de la province, enfin au niveau des représentations provinciales, posent leur candidature, recherche un emploi et les représentations départementales interviennent.
C'est ce qui m'ennuie un peu, c'est que même quand cela se passe, mettons, comme tout dernièrement dans le Lot, je reçois le CV de cet habitant du Lot pour qui je ne peux rien faire. Ou peu. À moins qu'il décide, lui, de quitter le Lot et de venir s'installer à Paris, ce qui représente quand même des frais, surtout s'il est marié, s'il a des enfants, etc. C'est la raison pour laquelle j'insiste toujours, et j'insisterai jusqu'au bout, pour que les fédérations du Front National prennent bien la conscience que si eux ne font rien sur le plan départemental où ils sont en contact, ils ont des élus dans les mairies, ils ont des élus au conseil régional, puisqu'on en a dans toutes les régions ou presque, et ils ne peuvent qu'activer, si vous voulez. Moi, je dis que si tout le monde avait bien compris ça au départ en 87, c'est pas 1000 que nous serions en train d'essayer de placer, mais on aurait peut-être placé 3 ou 4 fois plus. Mais l'Union nationale pour les Français et chômage, si elle s'occupe de placer les chômeurs, s'occupe aussi de bien d'autres à d'autres motivations. C'est là où intervient mon ami Jacques Pradeloup, qui a eu à s'occuper de cas sociaux désespérants et dont il va pouvoir parler, ne serait-ce que des deux affaires qui nous ont menés, dont une est passée en conseil de prud'homme. Et l'autre, je pense que ça a frisé de passer également dans la même direction.
Alors, Monsieur Pradeloup, quelle est votre fonction exacte?
Eh bien, voilà, j'ai été 35 ans avocat à la Cour de Paris, membre des comités Tixier-Vignancourt, avocat de l'OAS, et maintenant je suis juriste indépendant. Je connais Jean-Marie Le Pen depuis longtemps, je suis son ami et j'ai toujours été à ses côtés. Et bien entendu, quand Jacques Deschanel m'a parlé de son entreprise, je lui ai tout de suite dit que j'étais à sa disposition. Alors, l'objet de mon activité est double. D'une part, je m'efforce de l'appuyer pour tenter de procurer des emplois aux demandeurs d'emploi. Ce n'est pas toujours facile parce qu'en France, nous crevons de cette abominable tare que le manque de formation. J'ai des tas de clients ou d'amis qui me font des offres d'emploi pour des chauffeurs de livreurs, pour des conducteurs de poids lourds, des caristes, des manutentionnaires, des électriciens, des plombiers, des menuisiers. Et malheureusement, c'est un article qui est extrêmement rare et qu'on a infiniment de difficultés à trouver.
Bon. Alors ça, c'est une question très importante.
Et oui.
Au fond, ce que vous découvrez, enfin, ce que vous confirmez par vos propos, c'est que les chômeurs qui viennent vous voir sont pour la plupart des gens qui n'ont pas d'emploi parce qu'ils n'ont pas de métier.
C'est exact. Et donc, il y a une carence abominable dans la formation. Par contre, alors, Jacques Deschanel me transmet souvent des dossiers de cadres, souvent des cadres d'un niveau
hein.
élevé, licenciés économiques, qui ont dépassé les 51 ans, les 55 ans, et j'ai énormément de mal à les recaser. C'est un drame, car ce sont des gens à qui on ne peut pas offrir n'importe quoi, et malheureusement, dans l'état actuel des choses, quand vous avez un monsieur qui est occupé d'une situation importante dans de cadre de niveau élevé dans une entreprise, il est extrêmement difficile de le recaser dans une entreprise de même niveau et traitant des mêmes questions, parce que c'est évident qu'il est difficile de faire passer quelqu'un de l'immobilier à la fabrication du caoutchouc. Il est extrêmement difficile de recaser des cadres de haut niveau. Ben, nous y efforçons dans toute la mesure de nos moyens.
Quelle est la proportion de vos clients, comme dit Jacques Deschanel, entre guillemets, bien sûr, qui sont idéologiquement ou politiquement proches du Front National?
Je pense que plus de 90% et peut-être plus.
Des deux côtés, je veux dire, aussi bien les chômeurs que les entreprises.
C'est vrai que les entreprises.
Les entreprises, c'est moins affiché.
Enfin, en ce qui concerne les entreprises avec lesquelles je suis en rapport, je peux vous assurer que leurs chefs sont tout à fait sympathisant Front National.
Voilà pourquoi je vous posais cette question. Je m'attendais à votre réponse. Elle n'est pas très, très surprenante, il faut dire. Mais ce qui est en revanche assez surprenant, c'est que des gens qui sont dans ces idées-là n'arrivent pas à comprendre, ou plutôt coupent dans le baratin suivant lequel à 50 ans ou à 55 ans, on est un homme fini. Alors que, au contraire, si quelqu'un est placé pour savoir que c'est à 50, 55, 60, 65 ans qu'on donne le meilleur de soi-même, c'est des gens de droite, les gens de chez nous, qui connaissent la valeur de l'enracinement, de l'expérience, de la tradition, de la sagesse. Visiblement, ils sont aussi sensibles que les autres à la fable suivant laquelle il faut être jeune, il faut que ça pète, il faut que ça, tout ça, qui explique le drame du chômage des quinquagénaires.
Eh bien, monsieur De Becquetch, pas exactement, car les entreprises dont je vous parle sont des entreprises qui ne comportent pas un grand nombre de cadres de haut niveau, sont des entreprises plutôt des PME que de très grandes entreprises. Donc, dans une PME, il y a un nombre de cadres qui est relativement limité. Mais par contre, ce que je puis vous dire, c'est que ces entreprises partagent absolument nos idées. Leurs membres sont d'ailleurs des adhérents du Front National. À cet égard, il n'y a aucune espèce de problème. Enfin, j'ai tout de même, je crois, réussi à caser un commercial récemment dans une entreprise avec laquelle je suis en rapport. Un commercial qui occupera une position de cadre, mais il est exact que Jacques Deschanel m'a parfois transmis des dossiers de gens qui étaient vraiment des cadres de très haut niveau et que jusqu'à présent j'ai pas eu la possibilité de recaser.
J'aurais aimé qu'il nous parle un petit peu de cette histoire de ces deux personnes qui ont été ennuyées du fait de leur appartenance au Front National.
Il faut que je vous dise.
Parce qu'il y a quand même l'antiracisme, il y a l'antiracisme, mais aussi il y a l'anti-France.
Il faut que je vous dise aussi, monsieur De Becquetch, que je conseille les gens qui viennent voir, je les conseille sur le plan du droit social. Et bien souvent, ce sont des gens qui ont des... Oui ?
Il faut que vous parliez bien dans le micro, parce que autrement on vous entend très mal.
Voilà. Je conseille donc les gens qui viennent me voir et qui ont des problèmes de droit social ou des problèmes prud'homaux, je les conseille et je les suis, je leur procure des avocats, je les suis jusqu'au bout de leur procès. Et il est vrai que parfois, récemment même, j'ai constaté deux cas très particuliers d'ostracisme anti-Front National, deux jeunes femmes très très agréables, très compétentes et donnant toute satisfaction à leurs employeurs, qui ont fait l'objet d'un licenciement, camouflé sous un licenciement économique, mais qui en fait ont été licenciées parce qu'elles appartenaient au Front National. Alors nous avons engagé des actions devant le Conseil des Prud'hommes de Paris, et cette action tend à faire juger que ce licenciement économique était un licenciement fallacieux et irrégulier, et qu'en réalité, ces personnes ont été licenciées à raison de leur appartenance au Front National. Il y a un cas, en effet, qui est tout à fait particulier, c'est que une jeune femme qui était secrétaire d'un directeur de mutuelle d'assurance, et qui appartient au Front National, a découvert qu'une section CGT du 20e arrondissement de Paris avait pratiquement imposé à son employeur son licenciement du fait de son appartenance au Front National. Bon, et on a d'ailleurs fait paraître dans notre bulletin du Front anti-chômage un article sur cette affaire-là, qui était intitulé, je crois, une intolérable discrimination ou quelque chose comme ça. Et puis alors, d'autre part, j'ai un autre cas actuellement d'une jeune femme qui est tout à fait compétente, sympathique, une véritable battante, qui est conseillère municipale en Seine-Saint-Denis, et qui appartient à un groupe d'hôtels qui vient d'être repris récemment par la célèbre Régine, que vous connaissez, Madame Choucroune. Et cette personne a tout de suite a été photographiée. On a su qu'elle faisait partie du Front National. Or, elle est déléguée du personnel, donc protégée. Hein. Elle n'est pas déléguée syndicale, elle est déléguée du personnel. Et malgré cela, vous savez que pour licencier un délégué du personnel, il faut l'autorisation de l'inspection du travail. Bon, l'inspecteur du travail n'a pas donné l'autorisation de licenciement. Et malgré cela, ce groupe hôtelier a l'intention de passer outre.
Mais il faut donner le nom, alors, vous l'avez le nom du groupe hôtelier.
Alors je m'en occupe.
Mais il faut donner le nom de ce groupe hôtelier parce que c'est très intéressant, vous comprenez, pour nos auditeurs qui voyagent, il faut absolument qu'ils aillent dans les hôtels.
Eh bien écoutez, je m'excuse monsieur de Beckett, je vous le donnerai, mais je ne l'ai pas présent.
En tout cas, c'est celui qui est dirigé, présidé, animé, monté par Régine.
Ouais, exactement.
Régine Choucroune.
Exactement.
Alors, bon, comme ça, les auditeurs sont au courant. Ils savaient déjà toute la sympathie que
c'est un groupe auquel appartiennent un certain nombre d'hôtels parisiens de luxe du 8e arrondissement de Paris.
Voilà.
Par conséquent, alors on essaie actuellement, et nous sommes en bagarre, car on veut absolument la faire partir. Je crois qu'on est prêt à lui offrir de l'argent pour qu'elle accepte de partir.
Mais l'argent, ça règle tous les problèmes.
Ben
c'est
oui,
bien
ben,
connu.
Ben, enfin, il n'est pas certain que cette jeune femme, qui est une jeune femme énergique, se laissera séduire par la sirène Régine.
Elle refuse de patiner dans la choucroute.
C'est antisémite, qu'est-ce que vous voulez, résiste. Il ne faut pas résister, c'est l'antifada des hôtels de luxe.
Enfin voilà ce que nous faisons, monsieur de Beckett, nous efforçons de venir en aide à ceux qui viennent nous demander conseil et nous demander aide et assistance, et nous le faisons d'une façon totalement bénévole et désintéressée. Et je tiens à rendre ici hommage au dévouement de mon excellent ami Jacques Deschanel. Je pense que nous arrivons à faire du bien et en tous les cas à attirer des sympathies au Front National indiscutablement.
Alors, je dois vous dire que votre visite n'a pas été totalement inutile puisque d'abord elle a permis d'informer nos auditeurs. Et ensuite, elle a permis à un employeur de nous faire savoir qu'il va prendre contact avec vous. Il est entrepreneur dans la serrurerie bâtiment public.
Ah, donc là, il va rechercher des ouvriers qualifiés.
Il va chercher des ouvriers qualifiés.
Chose très rare.
Non, pas forcément qualifiés. Écoutez, la serrurerie, enfin le petit travail pour porter des portes.
Depuis deux mois, j'ai dans mon dossier la demande d'un électricien OS2, enfin OQ2.
Écoutez, je vous en prie, on est sur Radio Courtoisie. Oui, et alors?
Je n'ai pas trouvé l'OQ2.
Vous n'avez pas trouvé l'OQ2.
Non, mais il y a un problème.
Il faudrait peut-être demander à Mme Choucroune, elle pourrait peut-être vous arranger.
Il y a un problème terrible de formation professionnelle. Quand on pense à la façon dont vivent les manuels, les artisans américains, moi je connais pas mal les États-Unis puisque deux de mes enfants y habitent, les menuisiers, les plombiers, les électriciens.
Ils sont riches.
Les entrepreneurs de pompes funèbres. The Undertakers, c'est une des situations les plus reluisantes aux États-Unis. Et ces gens-là qui sont des manuels, les menuisiers, gagnent leur vie d'une façon absolument somptueuse.
J'ai un excellent ami qui est entrepreneur de pompes funèbres en Caroline du Nord et qui passe tous les ans 15 jours à New York dans un des meilleurs hôtels de New York, et tous les soirs, c'est sa seule distraction, il va voir une comédie musicale. Alors, donc, ça nécessite quand même des moyens corrects. Ça, c'est un entrepreneur. Ce qu'il faut savoir, c'est que, vous avez raison de le dire, aux États-Unis, la main-d'œuvre, enfin, l'artisan, a un statut social qui est équivalent de celui d'un médecin, d'un ingénieur, ou d'un avocat. Exactement. Et même socialement, il n'y a absolument aucune différence. Et je me souviens d'un ami qui était, lui, gardien de nuit dans un laboratoire à Miami, un laboratoire d'entomologie à Miami, et il nous envoyait tous les ans à Noël une boîte de caviar, ce qui prouvait quand même qu'il avait quelques moyens d'existence.
Absolument.
Donc, c'était pourtant pas un artisan très, très qualifié. Mais effectivement, il n'y a pas là-bas l'extraordinaire mépris, l'imbécile mépris qui existe en France pour les professions manuel. Et ça, je crois que c'est une des grandes faiblesses de notre mentalité, de croire que quelqu'un vaut mieux parce qu'il travaille dans un bureau que celui qui travaille dans un atelier.
Je ne suis pas d'accord, on aime quand même les travaux manuels maintenant en France, comme à Sartrouville.
Oui, c'est un autre genre de travaux manuels. Pas tout à fait la même chose.
Sartrouville, à Vaux-en-Velin, on encourage les travaux manuels deux siècles après la révolution intellectuelle en France.
Alors, une auditrice nous appelle pour nous dire, elle s'appelle de Sarcelles, pour nous dire à propos de chômage, à quoi sert la NPE? Cet organisme a été dans l'incapacité de trouver des emplois de carrossier pour deux jeunes gens que j'ai suivis de près et qui ont fait une formation dans cette spécialité. En une heure et demie, ajoute-t-elle, j'ai trouvé moi-même deux emplois auprès de carrossiers de la région. Et alors elle dit pourquoi la NPE, elle demande pourquoi la NPE n'a pas su faire ce que je fais moi-même. Eh bien, je vais vous donner l'explication, madame. C'est extrêmement simple et c'est d'une logique absolument imperturbable. La NPE, c'est d'abord, c'est des fonctionnaires. Je ne vais pas vous faire de dessin, parce que les fonctionnaires n'aiment pas qu'on dise du mal des fonctionnaires, et je les comprends, mais enfin quand même. Bon. Deuxièmement, si les gens de la NPE se mettent à trouver du travail à ceux qui n'en ont pas, très rapidement, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura plus de chômeurs. Et à ce moment-là, on va dire aux gens de la NPE, écoutez, vous allez rentrer chez vous, on n'a plus besoin de vous. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être chômeurs, mais à ce moment-là, il n'y aura plus personne pour s'occuper d'eux. Et donc, ça serait quand même d'une injustice formidable que les gens de la NPE soient les derniers Français sans travail. Ils seraient obligés d'aller au front anti-chômage. Et alors, si naturellement, ils préfèrent Mme Choucroune à Jean-Marie Le Pen, ils vont pas pouvoir aller au front anti-chômage parce qu'ils vont pas oser. Et ils vont se retrouver chômeurs à vie. Donc, franchement, ne demandez pas aux gens de la NPE de trouver du travail aux chômeurs. C'est évident.
Enfin, il y a ça, mais il y a aussi le fait que les socialistes veulent de plus en plus imposer une France d'assisté complet, une France
absolument
du chômage qu'ils peuvent entretenir à coup de RMI ou à coup de subvention, et d'une France d'être irresponsable et dépendant totalement de l'État et qui lui assure et qui assureront aux socialistes une réélection ad vitam. Jusqu'à ce que la France crève, mais comme c'est dans le programme
socialiste. C'est la raison pour laquelle nous refusons au front anti-chômage de faire de l'assistanat. Nous essayons de les sortir de leur chômage. Un point, c'est tout.
Alors, pardon, comment peut-on vous aider? Comment peut-on vous contacter? Ou téléphone, adresse,
bien,
et tout,
ben le, tout cela va être dit tout de suite. Donc, on écrit soit au front anti-chômage, soit à Jacques Deschanel. C'est le même bureau. 8 rue du Général Clergerie, 75 116 Paris. Le téléphone, c'est 47 27 56 66. C'est 56 ou 46?
Bon, c'est 56 66. C'est le plus vilain numéro de téléphone.
47 27 56 66. Et alors, je signale que donc nous avons le bulletin qui paraît à peu près toutes les 5 ou 6 semaines, qui s'appelle Le Chômeur Français. Ceux qui veulent s'y abonner, c'est toujours à la même adresse. Et d'autre part, nous avons lancé l'opération justement pour subvenir aux besoins qui nécessitent notre action, puisque nous ne demandons d'argent à personne et encore moins aux chômeurs. Nous avons lancé l'opération du café Solidarité.
Et une très belle opération et un très bon café.
Et il suffit de nous le commander, toujours au même endroit. On vous donnera tous les renseignements. Rue Clergerie.
8 rue Clergerie.
8 rue du Général Clergerie, 47 27 56 66.
Voilà. Ça, c'est pour Chanel, commander le café Solidarité.
Tout se passe rue Clergerie et je suis tous les matins de 9h à midi à la disposition de ceux qui voudront bien prendre contact avec moi.
Alors, Jacques Deschanel, pour finir, une question que tout le monde se pose, que moi je me suis posée longtemps avant qu'on devienne suffisamment amis pour que j'ose te la poser. Quel est ton lien de parenté avec le Deschanel?
Eh bien, avec le Deschanel Paul, c'était le cousin à mon grand-père.
Voilà. Donc, j'ai l'honneur de parler au petit-neveu d'un président de la République.
Et quel honneur! Non, il était autre. Ah non, là, si tu m'attaques là-dessus, on continue. On fait notre émission, là, à ce sujet-là, parce que j'ai l'histoire totale et complète de ces aventures. N'en rajoute pas, s'il était en pyjama, il était décent.
Bon, non, mais je le taquine toujours là-dessus. Parce
l'important, c'est de ne pas lâcher le train en marche.
Ça fait partie vraiment de la vraie culture française. Et tout à l'heure, je posais la question à M. Wetzel de l'intégration. Je disais, est-ce qu'on peut intégrer ou pas intégrer? On peut peut-être intégrer les gens, je ne sais pas. Mais ce qui est absolument certain, c'est que Mahmoud, jamais il sera, jamais, même s'il l'apprend à l'école, il ne sera pas avec ses neurones, avec ses cellules. Deschanel, ça n'évoquera rien pour lui, jamais. De même d'ailleurs que pour nous, quand on parle du marabout de telle ville, ça n'évoque rien, ça ne représente rien. Voilà.
Puisqu'on revient là-dessus...
Marabout de ficelle, oui, c'est ça.
Je voudrais faire une suggestion. Tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait en France 450 endroits où les Français ne pourraient pas mettre les pieds. Étant donné que les Français vont bientôt partir en vacances pour les grandes, est-ce qu'on pourrait pas faire une carte géographique pour éviter qu'ils tombent quand même dans des traquenards?
Le génie de la civilisation.
Une
carte géographique. Voilà,
on en parlera.
C'est qu'au Moyen-Âge, on était attaqué par les brigands dans les forêts. Aujourd'hui, on est attaqué dans les villes.
Alors, un auditeur me dit l'extrême droite ou la pensée truquée de Philippe Deveau. Connaissez-vous ce livre? Non, je ne le connais pas, mais je veux dire, ça doit être un bon livre, parce qu'au moins, il reconnaît qu'à l'extrême droite, il y a une pensée. Tandis que personne ne pourrait écrire sérieusement Parti Socialiste, la pensée truquée, c'est pas possible. Non, ces gens-là ne pensent pas.
De toute façon, c'est pas la fleur, c'est la rose, c'est pas la pensée.
Voilà. Oui, c'est une autre fleur. Connaissez-vous, Jacques Radelou, la loi du 30 janvier 90 qui impose l'emploi d'étrangers dans les entreprises, notamment dans l'administration?
En effet, il est question de favoriser l'admission dans les administrations de travailleurs étrangers, ce que je personnellement considère comme absolument inimaginable et ce qui n'existe dans aucun pays au monde. Mais effectivement, c'est une loi qui n'est pas encore à ma...
Peut-être pour amuser, mais enfin, il a tenu des propos peu amène à l'endroit des assureurs, propos d'ailleurs qui ont rebondi sur un autre propos de Jacques Radelou qui parlait d'une mutuelle d'assurance à Paris dont une employée avait été licenciée sur ordre de la CGT parce qu'elle était membre du Front National. Alors tout ça naturellement provoque
des réactions, et notamment la réaction d'un auditeur qui nous envoie un fax que je m'en vais vous lire. « Étant agent d'assurance à Saint-Germain-en-Laye, je suis scandalisé par les propos que vient de tenir M. Wetzel sur vos ondes quand il affirme que le pauvre est volé deux fois, la seconde par l'assurance. Loin de moi l'idée de brosser le panégyrique de l'assurance, comme dans toute activité, la nôtre a ses insuffisances. Mais l'assurance a pour objet l'indemnisation de la perte réelle, qui doit donc tenir compte d'une certaine vétusté. Les coefficients appliqués ne sont, croyez-en mon expérience, pas aberrants ni scandaleux. Je ne considère pas être complice de voleurs quand en ayant 90 encaissé 4 500 000 francs de primes, taxes entre 10 et 35 francs comprises, et réglé directement 1 500 000 francs de sinistres, sans compter les règlements faits directement par les compagnies. Et c'est la conscience en paix que j'assiste à la messe tous les dimanches. C'est déjà très bien d'assister à la messe tous les dimanches. Et donc cet auditeur, dont je peux peut-être donner le nom puisqu'il signe, c'est M. Kempf, qui est assureur conseil à Saint-Germain-en-Laye. Alors d'ailleurs, si vous avez besoin d'un assureur conseil et que vous habitez la région de Saint-Germain-en-Laye, vous savez que les jeux de mots sur les noms sont absolument pas drôles. Ça coûte très cher.
Du rafour micro-ondes.
Donc voilà, pour micro-ondes, c'est Strengfer-Botten. Donc, Monsieur Kempf, assureur conseil à Saint-Germain-en-Laye, je termine sa lettre. Il nous disait, c'est donc la conscience en paix que j'assiste à la messe tous les dimanches. Le reproche est d'autant plus immérité de la part d'une profession qui s'est autoproclamée innocente de combien de milliards de détournements. Oui, c'est vrai, mais je ne sais pas si on peut englober Monsieur Wetzel dans le lot des crapules socialistes qui se sont auto-amnistiés. Il ne fait pas partie de ce genre de politique aérienne.
Cela étant, il en a peut-être un petit peu rajouté, comme quand il s'est réclamé de France Israël, un petit peu pour se dédouaner.
Oui,
il défend les pauvres pour ne pas trop se faire traiter de raciste.
Il est obligé de défendre les pauvres.
Il défend Israël pour ne pas se faire traiter de
qui ne défendrait pas les pauvres. Deschanel aussi défend les pauvres. Moi, je défends les pauvres. Je leur défends d'ailleurs d'entrer chez moi.
Les riches ne cherchent pas de travail, de toute façon.
Les riches ne cherchent pas de travail.
Ils cherchent des employés, bien souvent.
Donc, oui, effectivement, il faut dire à M. Kempf que, bien sûr, il est probable que Wetzel a fait cette déclaration pour en rajouter un petit peu, pour bien montrer qu'il n'est ni raciste, ni extrémiste, ni fasciste, ni capitaliste, enfin toutes ces choses cacaboudin, on a bien compris. Cela dit, l'avantage avec les assurances, si vous me permettez d'ajouter ce petit mot personnel, c'est qu'on peut en dire ce qu'on veut, ça n'a aucune importance, puisque c'est obligatoire. Alors, à la limite, quand vous dites, attention, les coiffeurs sont tous... Et puis vous ajoutez quelque chose. Je vous laisse le choix de l'épithète. Qu'est-ce que vous faites si vous le croyez vraiment? Vous allez chez un marchand et vous achetez une tondeuse et vous faites ça vous-même. Je peux vous dire, bon, c'est pas toujours réussi. Par exemple, il suffit de regarder ADG. Bon. Mais enfin, on peut le faire. Non, mais on peut le faire, c'est vrai. Mais l'assurance, vous pouvez pas vous assurer tout seul. Donc, que vous ayez de l'estime pour les assureurs ou pas, vous ne pouvez pas vous assurer tout seul. Vous n'aimez pas les médecins, vous pouvez vous soigner tout seul. Pas longtemps, mais vous pouvez le faire. L'assurance, c'est pas possible.
Juste le temps de trépasser.
Mais voilà, c'est ça. Donc, voilà, Monsieur Kempf, je pense que je vous ai réconforté en lisant votre mise au point. Là, il y a une autre mise au point, mais je ne peux pas la lire parce que, tout simplement, je n'arrive pas à déchiffrer. Je vais essayer de faire ça hors micro et puis je le lirai. Messieurs, merci encore. Nous accueillons maintenant Monsieur Chabrier, qui est chercheur au CNRS, qui va donner prochainement une conférence au centre Charlier, si je ne me trompe pas. Conférence qui concerne la situation des chrétiens en Irak. Alors, on va parler de ça dans peu d'instants, mais avant, je propose d'écouter un petit peu de musique.
Élève Langlois.
Présent.
Vous êtes première en histoire de France. Eh bien, parlez-moi, Vercingétorix. Quelle fut sa vie, sa mort, sa naissance? Répondez-moi bien et vous aurez 10.
Monsieur l'inspecteur, moi je sais tout ça par cœur. Vercingétorix, né sous Louis-Philippe, bâtit les Chinois un soir à Roncevaux. C'est lui qui lança la mode des slips et mourut pour ça sur un échafaud.
Le sujet est neuf, à vous, vous aurez neuf.
On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. police et papa, police et papy, police et papillon.
Élève jeunesse,
présent.
Vous connaissez bien l'histoire naturelle. Eh bien, dites-moi ce qu'est un ruminant. Et puis, citez-moi. Et je vous rappelle que je donne 10 quand je suis content.
Oh, punaise, monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur. Les ruminants sont décollés.
Alors, pourquoi Philippe a-t-il cette passion pour Madame la Marquise? Ça reste un mystère insondable. Il y a peut-être une pointe d'ironie. C'est pas Madame la Marquise.
Papillon,
oui, alors, ah, oui,
1930.
J'ai cru que c'était encore Madame la Marquise. Je dis, mais il nous l'a passé deux fois. Eh ben, non, c'était le lycée Papillon, pardon. Alors, c'est comme si j'avais rien dit. C'est comme le reste de l'émission,
d'ailleurs. Pas de culture.
Kein Kultur. Je disais que j'allais déchiffrer un texte. Alors, effectivement, je vous le lis. À propos des artisans américains, un auditeur fidèle, dit-il, nous dit les artisans US ne sont pas non plus pourchassés par le fisc local, et oui, ça fait toute la différence, hein. C'est peut-être pour ça qu'ils veulent s'acheter des belles voitures, qui considèrent que les sommes récupérables légalement ne sont pas suffisantes par rapport au coût de l'inspection fiscale. Évidemment, les Américains, ils raisonnent comme ça, tandis qu'en France, on s'en fout, parce qu'un inspecteur, ça coûte rien, qu'il soit au bureau ou qu'il soit en train d'enquiquiner les artisans, il coûte la même chose, alors ça serait dommage de le laisser à la maison. Voilà, j'espère que j'ai pas fait de peine aux nombreux inspecteurs du fisc qui nous écoutent. Parce qu'il faut faire attention, il faut ménager les susceptibilités. Hein. Il faut faire attention de ne pas faire de peine à Madame Chocroune, faut pas blesser les artisans, faut ménager les assureurs, respecter les fonctionnaires.
L'industrie du luxe.
C'est l'industrie du luxe, oui. C'est très difficile, cette métier-là. Voilà. Bien, alors, monsieur... Non, une dame, ne croyez-vous pas que nous allons vers la tourmente? Mais donnez-nous la tourmente, comme disait... Qu'est-ce qu'il disait ça, donnez-nous la tourmente? Victoria, quel était le grand chef OAS qui disait donnez-nous la tourmente?
Je ne sais.
Je ne sais rien. Bon, je pose la question aux auditeurs, c'est un concours.
Mais je connais le
Si vous... Oui, oh, bah, écoutez, c'est quand même pas le même genre, c'est pas le même univers culturel. Hein. Donc si vous savez qui a dit donnez-nous la tourmente, vous téléphonez et vous avez gagné ma reconnaissance éternelle. Voilà. Jean-Claude Chabrier, bonjour.
Bonjour. Alors,
vous êtes donc chargé de recherche au CNRS, ce qui est un titre assez exceptionnel à Radio Courtoisie, tout spécialement dans cette émission, je dois dire. Ça va être parfaitement clair. Mais je suis content de vous accueillir parce que vous êtes le spécialiste, vous êtes un spécialiste, je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'ailleurs.
Oui, il y en a d'autres. Moi, je suis musicologue, moi j'ai fait une thèse sur l'école de lutte de Bagdad, je ne suis pas le spécialiste des chrétiens d'Irak, mais cela étant, je les connais bien.
Alors là, vous connaissez les chrétiens d'Irak. Il y a eu l'autre jour, je crois que c'était sur la radio du dimanche de Radio Courtoisie Lumière 101, une remarquable émission, je crois me souvenir que c'était un dimanche, dans laquelle une chrétienne d'Iran est venue parler assez longuement de ce qui se passait en Irak. Et on a appris beaucoup de choses, notamment sur les relations entre les chrétiens d'Irak, et les Kurdes. Qui ont fait découvrir que les petits protégés de Madame Danielle Mitterrand, dont Nicolas nous parlera tout à l'heure, probablement, que ces petits protégés ne sont pas les anges purs et radieux qu'on veut bien croire.
Alors, vous voulez dire qu'on a fait la guerre pour Danielle Mitterrand?
Oh, en tout cas...
c'est vrai.
C'est pas Hélène de Troyes, mais c'est Hélène de Deux.
La Castillonne, alors. Voilà, c'est Solferino. Non. Ah.
C'est la Castillonne, mais j'aurais préféré qu'elle restât dans le carrosse. Alors... Jean-Claude Chabrier, première question, historiquement, pourquoi y a-t-il des chrétiens en Irak? Pourquoi l'Irak est-il pratiquement le seul pays de la région, avec le Liban bien sûr, dans lequel les chrétiens ont survécu et même peut-être prospéré?
Là, vous me posez la question, j'allais dire presque à l'envers, parce que ça va être la conclusion. Pourquoi y a-t-il des chrétiens en Irak? C'est parce que saint Thomas, celui qui voulait voir... a fini en Mésopotamie, à Ctésiphon. Il a donc évangélisé la haute Mésopotamie et la Mésopotamie, puisque Ctésiphon est au sud de Bagdad. Bon, ça c'est l'histoire. Là-dessus, il y a eu ce qu'on appelle des schismes, mais je me méfie de ce qu'on appelle des schismes, parce qu'en général, le plus fort qualifie le plus faible ou le moins nombreux de schismatiques, et on ne sait jamais qui a raison. Mais ce sont des schismes qui sont loin de nous. Il y a d'abord une question de dogme. Fallait-il être diophysite, c'est-à-dire reconnaître les deux natures du Christ, ou monophysite, une seule? Et c'est c'est comme ça que sont nés les dogmes, puis les rites chaldéo-nestoriens syro-jacobites, qui sont des rites et des dogmes, bien entendu, qui se sont perpétués en Irak jusqu'à nos jours. Les uns se sont à nouveau rattachés à Rome, on les appelle catholiques, c'est une appellation de convenance, et les autres sont appelés orthodoxes parce qu'ils ne sont pas rattachés à Rome. Je vous fais grâce des conciles d'Éphèse et de Chalcédoine qui ont justement exclu les moins nombreux. Byzance était à l'époque, était sa, la Rome à sa façon, et elle condamnait, on va dire, les évêques ou les patriarches qui ne lui obéissaient pas en tout. Alors, on arrive à, très vite, les chrétiens, et justement cette chrétienne d'Irak qui est venue au micro de Radio Courtoisie a beaucoup appris aux auditeurs.
Vous étiez d'ailleurs à l'émission.
Oui, j'y étais, mais je dois dire que sa présence m'a été agréable, parce qu'il vaut mieux faire parler des chrétiens d'Irak par les chrétiens d'Irak eux-mêmes, d'autant plus que certains des propos qu'elle a tenus, dont moi je croyais comprendre le sens, ont dû énormément surprendre les auditeurs. Alors on va aller très vite. Pour les chrétiens d'Irak, dont je ne suis pas, moi je suis chrétien de Neuilly-sur-Seine au départ, et de la Bourgogne avant. Pour les chrétiens d'Irak, ils sont les autochtones de la Mésopotamie, surtout de la haute Mésopotamie. Donc, ils ont vu arriver l'islam, ils ne s'en souviennent plus, mais enfin, il y a des chroniques là-dessus. L'islam a évidemment submergé, comme toujours. Quand l'islam arrive, on peut continuer à ne pas être musulman, mais les pressions sont telles qu'un très grand nombre de chrétiens se sont convertis. Là-dessus, j'arrive plus rapidement au XXe siècle, parce qu'il ne s'est pas passé énormément de choses dans le nord de l'Irak, du moins il s'en est passé énormément, mais on n'en a pas beaucoup parlé en France. Quand il y a eu des massacres de chrétiens au Liban, sous Louis XIV on a envoyé, on a réagi, sous Napoléon III on a réagi, bien entendu sous la France socialiste on n'a pas réagi, il valait mieux faire un camp pour les Kurdes en Auvergne, je ne sais où ils sont. Cela étant, arrivons à l'Irak tel qu'il se forme après la guerre de 14, après l'éclatement de l'Empire ottoman, plusieurs tentatives d'État chrétien, et comme vous le savez, on a promis, l'Occident était très fautif, je dois dire, mais c'est un Occident que nous avons retrouvé avec la coalition Bush-Mitran, et je ne sais pas comment ça s'appelle, le British, enfin peu importe.
Major.
L'Occident promet, alors l'Occident évidemment promis à la fois aux Arméniens, aux Kurdes et aux chrétiens un État. L'ennui c'est que c'est un peu comme en Transylvanie entre les villages roumains, les villages hongrois et les villages saxons. Il y avait une imbrication telle de Kurdes, de chrétiens et les troisièmes, j'ai déjà, et d'Arméniens, surtout dans ce qui est actuellement la Turquie orientale, qu'on pouvait promettre autrement un État, l'État ne pourrait se faire qu'en massacrant les autres. C'est ce qui s'est passé, les Kurdes n'ont quand même pas eu la main légère, je veux dire, ils ne se sont pas privés de massacrer les Arméniens, que les Turcs, avec beaucoup d'opportunisme, leur conduisaient en troupeau. Ainsi, les Kurdes les achevaient, comme ça les Turcs de dire qu'ils n'avaient pas massacré les Arméniens, puisque c'était les Kurdes qui les avaient massacrés. Alors, plusieurs tentatives d'État chrétien, en 1924 un échec, en 1935 les Assyriens qui se feront massacrer et qui se réfugieront en Syrie française, en 1937 encore un État chrétien. C'est toujours dans l'air, mais ce qu'on peut remarquer, c'est aucun des États promis n'a été créé. L'Arménie a disparu, on va dire, sous la Dac turque, l'État kurde. Alors là, c'est un autre problème dont on va parler maintenant, et on arrive à l'Irak d'il y a 20 ans. Alors, il y a 20 ans, apparaît en Irak un parti politique que tout le monde connaît en France, mais sur lequel nous sommes très mal informés. Ce parti, quelles que soient ses qualités et ses défauts, quelles que soient les qualités et les défauts de ses dirigeants, a été fondé par un chrétien syro-libanais du nom de Michel Aflaq. Et comme le fondateur était chrétien, la base de ce parti, ce serait la laïcité. Donc, ne pas augmenter le pouvoir abusif de l'islam dans les pays arabes, au contraire, le tempérer. Et c'est ce qui devait se passer, théoriquement, en Syrie. Alors là, il y a beaucoup à dire. En Irak, il s'est passé beaucoup de choses, ce qui fait que, paradoxalement, les chrétiens d'Irak ont aimé le régime qu'on est actuellement d'essayer de mettre par terre. Pourquoi ? Parce que tout minoritaire qui voit arriver un régime qui va affaiblir la religion majoritaire, ou le pouvoir majoritaire est content et pactise. Donc actuellement, si j'ose dire, les chrétiens d'Irak sont en grand danger, car ils ont, il est vrai, pactisé avec le régime de Saddam Hussein, et si on avait entendu, si on se rappelait ce qu'a dit cette Irakienne au micro de Radio Courtoisie il y a un mois, il y a des gens qui ont été très surpris. Car en fait, ils ont aimé cet homme, parce que cet homme, quel qu'était ses défauts, a énormément favorisé les chrétiens. Donc on ne peut pas détester un chef d'État qui favorise quand on est une religion qui a été persécutée depuis le 7e siècle. Voilà à peu près l'état politique. Je vous demande pardon de faire tant de politique, car c'est pas la politique qui nous intéresse. La conférence que je fais est strictement apolitique, mais dans la conjoncture actuelle, je crois qu'elle tombe bien, car on est en train de s'apitoyer sur les Kurdes, qui sont, quelle que soit leur qualité de minoritaire, les massacreurs des gens qui leur sont minoritaires. C'est-à-dire, il y a 5 millions de Kurdes en Irak, et ils prétendent être massacrés par les Arabes. Seulement, les Kurdes ne se sont jamais privés de massacrer les chrétiens qui étaient logés, enfin dont les villages étaient concurrents des leurs, et vous savez, c'est la lutte pour les pâturages. Autrefois c'était la lutte pour les pâturages, maintenant c'est la lutte pour autre chose. Donc les chrétiens d'Irak sont actuellement en très grand danger, et les 29 coalisés occidentaux qui se sont amusés à tapisser l'Irak de bombes, sans doute pour en faire une sorte de puzzle, feraient bien de penser que si on a réussi évidemment à donner aux Kurdes une autonomie qu'ils avaient déjà d'ailleurs sous le régime baasiste et une reconnaissance de leur langue qu'ils avaient déjà depuis longtemps, on n'a toujours pas donné aux chrétiens ni une région autonome où ils seraient en sécurité. Tout le monde parle de vivre en sécurité dans des frontières sûres et reconnues au Moyen-Orient. Ben moi, je voudrais bien apprendre que les chrétiens d'Irak, quitte à quelques regroupements et échanges de villages avec les Kurdes, seront regroupés dans une région d'Irak où ils seront à l'abri des invasions et des massacres kurdes. Car il y en a encore, et il y a sans arrêt, des raquettes et des violences. Parce que les Kurdes sont 5 millions et que les chrétiens d'Irak ne sont qu'un million. C'est la loi du plus fort, du plus nombreux.
Alors ça, c'est un peu la trame de la conférence que vous allez donner devant le Centre Charlier, enfin pour les amis du Centre Charlier. Ça se passe quand et alors, à quelle heure et où cette conférence?
En fait,
peut-être qu'Agnès Torchebeuf qui est là peut nous le dire.
Donc ça se passe le 11 avril à la FACO.
Le 11 avril à la FACO.
À l'amphithéâtre de la FACO, c'est 115 rue Notre-Dame-des-Champs, dans le 6e, métro Port-Royal, à 19h30, le 11 avril.
C'est un endroit très agréable.
Vous le connaissez, oui, puisque vous êtes venu faire une brillante conférence le 31 janvier.
Je ne sais pas si elle était brillante, mais je suis venu donner une conférence, ça c'est certain.
Alors, la conférence en soi n'est pas politique. J'ai donné aujourd'hui le préambule qui justifie que je sorte mes diapositives de leurs réserves. Elles étaient en coffre, ou si vous voulez, elles sommeillaient. C'est simplement le danger qu'encourent actuellement les chrétiens d'Irak d'être massacrés par les Kurdes ou envahis par les Turcs. Mais la conférence est strictement apolitique, puisqu'elle montre des nuits de Pâques, des nuits des rameaux, des manifestations, des processions, les chrétiens dans leurs églises, dans leurs villages, chez eux au besoin, les églises de Mossoul, et je rappelle à cette occasion que les Américains ont quand même bombardé et écrasé l'église Saint-Thomas, qui est la plus vieille église de Mossoul du XIIIe siècle. Pour des gens qui bombardent avec précision, c'est quand même très fâcheux.
C'est un peu peut-être comme un bunker aussi.
Oui, tout le monde sait que les évêques vivaient dans des bunkers. Enfin, là, c'est un autre problème.
Il y a des crosses à répétition, peut-être, les évêques.
Mais de toute façon, les Français savent bien ce qu'est un bombardement américain. Moi, j'ai été bombardé en 43 et 44. Je sais que les Américains rasaient les villes pour tuer 3 soldats allemands, en particulier Royan ou Saint-Lô. Donc, j'aurais préféré ne pas être irakien au mois de janvier.
Oui, mais je crois que beaucoup de gens auraient préféré, notamment d'ailleurs tous les gens qui étaient partisans de l'intervention en Irak, mais qui n'étaient pas partisans d'y aller eux-mêmes. Ils étaient très contents que ce soit d'autres qui y aillent. Je ne dis pas que tous les partisans étaient dans cette disposition d'esprit, mais je pense à tous les foudres de guerre, à tous les va-t-en-guerre de la presse de gauche notamment, qui après avoir dégueulé littéralement sur l'armée française pendant 30 ans, d'un seul coup ont découvert les beautés du parachutisme et ont décidé que vraiment l'armée française était la plus belle chose du monde. Mais je crois à condition qu'elle soit à 7000 km de nos frontières en train de casser une menace pour Israël. Alors, à propos de parachutistes, je porte donc la réponse à la question que j'ai posée tout à l'heure et qui est arrivée exactement 2 minutes après que j'ai fini de la poser. Effectivement, Seigneur, donnez-nous la tourmente, c'est une des phrases de la magnifique prière du parachutiste, écrite par l'aspirant Dzirneld. Voilà, et ça a pris exactement 2 minutes à nos auditeurs, qui sont toujours... Vous êtes formidables. Tiens, voilà un bon titre d'émission. On pourrait faire une émission, hein, Nicolas, comme ça, intitulée « Vous êtes formidables ».
Formidable.
Formidable. Donc, Jean-Claude Chabrier, cette conférence portera sur la vie actuelle des chrétiens en Irak. Je ne veux pas vous demander de déflorer le sujet, mais quelle est, à votre avis, la caractéristique la plus particulière, la plus spécifique? En quoi ces chrétiens d'Irak sont-ils différents des autres?
Alors, je suis obligé de reprendre ce qu'a dit l'Irakienne qui est venue au micro de Radio Courtoisie il y a un mois. En fait, c'est que ces gens-là sont vraiment chrétiens. Ils le sont jusqu'au bout des ongles parce qu'ils vivent leur sort de minoritaires chrétiens, comme sans doute les chrétiens de France risquent de le vivre d'ici 50 ans ou un siècle. Et être chrétien quand on est minoritaire, quand on est sans arrêt humilié par la majorité musulmane, ça donne aux gens la notion qu'ils sont chrétiens pour quelque chose. C'est donc ce que j'appelle un christianisme d'identité qui est encore plus fort que le christianisme de la foi. Non pas que je veuille mettre la foi comme une denrée moins importante, mais on peut dire que les chrétiens d'Irak sont conscients de leur identité chrétienne du matin au soir puisqu'ils vivent dans une terre musulmane. Cela étant, ils étaient à peu près heureux depuis 20 ans et satisfaits encore qu'ils aient demandé beaucoup moins que les Kurdes. Qu'est-ce qui les caractérise encore? Un christianisme extrêmement fort, extrêmement profond, puisque cette chrétienne qui est venue racontait que toute chrétienne irakienne faisait son chapelet le matin, oui, et une ça, deuxième fois dans l'après-midi. Et
extraordinaire.
Le soir. Alors en France, évidemment, quand on vous dit que Jésus était vachement sympa, c'est pas tout à fait le même style de christianisme. Cela étant, je crois que ce sont des chrétiens sympathiques, je dirais même que ce sont des chrétiens pittoresques, car c'est une conférence de 300 diapositives, c'est pas une conférence dogmatique. Je ne parlerai pas beaucoup des dogmes, mais on verra les rites, et c'est très sympathique de voir le côté à la fois vraiment oriental, autochtone de ces gens qui remplissent des églises. On voit 4000 personnes dans une église et ces 4000 personnes sont en costumes régionaux. J'allais dire, seuls les prêtres qui officient ont des chasubles, des étoles, des manipules et autres revêtements.
Ils ne sont pas en blue jean. Non.
Ben écoutez, j'ai l'impression qu'ils se feraient mettre à la porte par leurs fidèles. Parce que là-bas, être chrétien, ce n'est pas une plaisanterie et ça fait tellement longtemps qu'on souffre du fait qu'on est chrétien qu'il faut avoir des prêtres dignes de ce nom.
On avait entendu d'ailleurs dans cette fort belle émission une chose, c'est une des plus fortes émotions que j'ai ressenties depuis très longtemps, c'était le Notre Père dit en araméen, c'est-à-dire dans la langue du Christ, qui est le Notre Père qui était dit dans une église.
C'était l'évangile de Saint Jean.
Le Notre Père est peut-être passé
à une autre émission, parce que le Notre Père est une chose qui est assez remarquable aussi. Moi, j'aime beaucoup leur credo. C'est-à-dire, c'est intéressant, et je pense, dans le cadre de ma vie familiale, mes enfants ont été... ça leur a rappelé que Jésus parlait quand même araméen, et d'entendre l'évangile de Saint Jean en araméen, je crois que la version que nous avons ici est grecque, mais enfin, c'est une chose qui quand même suscite l'émotion. C'est autrement, je dirais plus, c'est liturgie en langue araméenne, puisque les Syriaques et les Chaldéens, ainsi que les Nestoriens, les Jacobites d'Irak, font leur liturgie en araméen. C'est certainement beaucoup... Moi, évidemment, j'ai été élevé au latin, alors j'aime beaucoup le latin parce qu'il est mon identité de catholique français, mais je préfère l'araméen à beaucoup d'autres langues qui déformeraient l'évangile. Au moins, l'araméen, c'est la langue du Christ.
Merci mille fois, Jean-Claude Chabrier. Je suis content que vous ayez pu venir ce soir pour donner ce petit aperçu, parce que ça devrait mobiliser les auditeurs de Radio Courtoisie et les inciter à aller vous entendre, parce que vous êtes un homme de passion, comme beaucoup de musicologues d'ailleurs, comme beaucoup de fous de musique. Vous êtes un homme de passion, vous êtes un homme de conviction, vous avez un enthousiasme contenu, qui est l'enthousiasme contenu du chercheur. Et je pense que votre conférence sera passionnante.
Est-ce que je peux rajouter un mot?
Bien sûr.
C'est que le gouvernement, du moins le ministre, vient de supprimer d'un trait de plume la section langues et civilisations orientales du Centre national de la recherche scientifique. Donc contrairement à ce qu'on pense, évidemment le CNRS n'a jamais eu la réputation d'être un organisme très conservateur et très catholique, mais contrairement à ce que l'on pense, les chercheurs du CNRS qui avaient tendance à être très révolutionnaires, très un brin marxiste, sont actuellement les victimes de cette espèce de politique vaniteuse qui consiste à mettre par terre toutes les institutions françaises, à commencer par l'orientalisme qui nous a donné Villotto, Champollion, Sylvestre de Sacy et Fulgence Fresnel, celui qui a justement exhumé la porte d'Ishtar à Babylone. Donc c'est un peu, contrairement à ce qu'on pense, le CNRS qui était traditionnellement de gauche est évidemment opposé dans sa grande majorité à la suppression d'institutions qui, par leur continuité, assuraient le sérieux des recherches.
Merci Jean-Claude Chabrier. Je suis obligé malheureusement de rendre l'antenne au studio puisqu'il est 19h30.
Dites-moi des choses tendres. Votre Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie programme national sur 95.6 MHz. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, diffusé en direct le mercredi 27 mars de 18 à 21h et en différé le jeudi 28 mars dans la nuit de 2 à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Patrick Simon. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. C'est grâce à ses auditeurs que vit Radio Courtoisie. Pour nous aider à demeurer libre, adhérez à notre association. La cotisation annuelle minimum est de 200 francs. Adressez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le souhaitez, vous pouvez intervenir au cours du libre journal de Serge de Bekech par téléphone au 46 51 00 85 ou par télécopieur au 46 51 21 82.
Bien, je rappelle que la conférence de Jean-Claude Chabrier aura lieu le 11 avril à la FACO, c'est 115
rue Notre-Dame-des-Champs.
Alors, on va tout de suite parler avec Agnès Torchebosch des autres manifestations qui sont prévues, enfin des autres conférences qui sont prévues par le Centre Charlier dans l'amphi de la FACO. Mais avant, je vous demande, Agnès Torchebosch, de m'accorder quelques minutes parce que j'ai Jean Ducard au bout du fil, Jean Ducard qui est journaliste à Minute La France et qui est allé à Sartrouville pour voir ce qui se passait sur place. Jean Ducard ?
Là, oui.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, Serge.
Alors, nous avons eu tout à l'heure Monsieur Wetzel, le maire de Sartrouville, à ce micro en direct, et qui nous a dit que pour l'instant la situation paraissait calmée. Quelle est votre opinion là-dessus?
Oui, alors j'ai quitté moi la mairie de Sartrouville. Il était à peu près 18h, et c'est vrai que la situation s'est calmée après quelques petites bagarres qui ont eu lieu entre la presse, parce qu'il y avait des journalistes télévision, et les journalistes télévision, notamment trois journalistes télévision, qui je crois, je suis pas sûr où ils étaient d'FR3, où ils étaient d'antenne 2 ou d'une télé câblée, j'ai pas pu vérifier parce qu'il y avait un brouhaha total, ont été pris à partie par les manifestants et ont été un caméraman a été frappé, un policier a pris un coup à la cuisse et une fille a pris quelques coups de pied dans le dos. C'est ce que j'ai pu voir. Ils ont été évacués en, si vous voulez, ça a fini vers 18h, il y a eu à peu près 100, 150, 200 manifestants qui ont bloqué l'artère principale, c'est-à-dire qui passe sous le pont de la gare et qui va à la mairie. Donc c'était assez hallucinant comme vision parce qu'on était pratiquement dans une ville en guerre, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on voyait de loin tous les bus arrêtés, un grand embouteillage qui commençait à Argenteuil et qui bloquait jusqu'à Sartrouville à cause de cette bagarre. Et la police était totalement impuissante, hein, et totalement dépassée.
Alors, d'une part, vous avez vu aussi l'état de l'Euromarché. Vous me disiez tout à l'heure, hors micro, que c'était assez
abîmé. C'est assez fabuleux ce qui se passe à Euromarché, même pour un cinéaste, parce que l'Euromarché a été ouvert ce matin. Suite à une descente de bande vers midi, ça ce sont les informations qu'ont donné à la police, la direction aurait pris la décision de le refermer à midi. Et maintenant, jusqu'à partir de midi, il est sous copieuse surveillance des CRS. Alors ce qui s'est passé, c'est que les manifestants hier ont essayé d'incendier la station-service, d'après ce que j'ai compris, en mettant de l'essence, mais ils n'y sont pas arrivés. Il y a toujours une permanence d'une vingtaine de pompiers près de la station-service. En dehors de ça, ils sont partout bombés, mais absolument partout, des panneaux qui bouchent les entrées d'Euromarché avec des panneaux où c'est écrit « Jamel, on te vengera », Euromarché assassin, Euromarché responsable, Euromarché responsable, vous voyez. Et comme personne n'a précisé, c'est ça qui est extraordinaire, que l'Euromarché est fermé, vous avez des centaines et des centaines de voitures qui tournent sur le parking, un espèce de grand balai, c'est assez surréaliste, de gens qui viennent faire leurs courses et qui tombent nez à nez avec des CRS et des bandes dans le fond, il n'y en a plus tellement, mais parce qu'ils sont plutôt à la mairie et dans la cité. Et des centaines de gens qui tournent, enfin c'est vraiment, c'est assez extraordinaire.
Et est-ce qu'on a une impression de tension ou est-ce qu'au contraire,
oui. Tension énorme, à tel point que les CRS qui ont envoyé sur place sont des CRS de Vélizy, c'est-à-dire des gens qui ne sont absolument au courant de rien, on les a informés de rien, le PC presse ne sait rien, pour pas que les CRS, à la limite, aient peur, j'ai l'impression.
Ah oui.
Car il y a quel climat de tension, que les policiers sont là, c'est marrant, c'est qu'on protège plus les denrées alimentaires, vous voyez, Intermarché est surprotégé, alors que la mairie et les gens sont sous-protégés. J'ai compté 25 policiers grand maximum, en comptant les inspecteurs en civil.
Oui, mais enfin, entre nous, on peut imaginer qu'il y a ça des raisons, par exemple le fait que les manifestants, comme vous les appelez aimablement, sont peut-être plus tentés d'aller piquer quelques bouteilles de whisky au supermarché, oui, plutôt que d'aller piquer quelques stylos à billes à la mairie.
C'est possible.
C'est une éventualité à envisager. Je vous demande pas de jouer les Madame Soleil, mais d'après vous, est-ce que la situation est plutôt en voie de s'arranger ou en voie de s'aggraver?
Oui, ce qui est intéressant à Sartrouville, Serge, c'est que la situation ce soir avait l'air de s'arranger un peu, bon, on s'ouvrait vers le dialogue, mais ce qui est intéressant, c'est, il faut le dénoncer absolument, c'est la récupération du PC. C'est fabuleux. J'ai sous mes yeux un tract du Parti communiste, alors que distribuaient là-bas des gens du PC, des militants. Alors pour eux, c'est simple, enfin ils endoctrinaient aussi les jeunes massivement. Pour eux, il n'y a plus de Jamel Chetou. Jamel Chetou est oublié, c'est fini. Jamel Chetou, c'est le jeune qui a été abattu. Mmh. Maintenant, c'est le maire. On veut la tête du maire. Donc le PC a pris le relais et c'est une opération politique.
C'est la vengeance de Marcel Paul.
Voilà. Et il y a une distribution des tracts où vous avez le grand tract où on dit oui, nous, c'est terrible ce qui s'est passé. Puis en bas, vous avez en gros adhéré au PC. Alors dans le genre récupération honteuse, alors on ne fait pas mieux. Et il y a même des gens du Parti communiste qui ont été pris à partie devant les beurs par des vieux habitants de Sartrouville. Et j'ai même vu un vieux monsieur crier « Moi, je suis pour Le Pen et je vous emmerde » et personne n'a bougé. Il n'a pas pris un coup de poing.
Eh ben, on lui transmet de loin nos félicitations. Ça fait au moins, il y a un Français courageux.
Non, il a dit ça à un conseiller municipal du PC qui récupérait vraiment d'une manière un peu grossière.
On me dit que sur FR3 en ce moment, c'est le troisième représentant d'association maghrébine qui est interrogé, qui est interviewé, alors qu'on n'a pas entendu un seul Français de souche à qui on n'a rien demandé aux Français de souche. Et je dois dire que ça, c'est tout à fait...
Sur FR3.
Alors,
il faut répondre à nos confrères d'FR3. Moi, j'ai vu les journalistes de FR3 arriver. Ils m'ont demandé la rue. Ils sont arrivés à 18h15 sur leur marché. Ils n'y étaient encore jamais allés. Ils m'ont demandé la rue, ils étaient perdus. Ils avaient mis leur camion plus haut, on le voyait visiblement garé avec les warnings sur la pénétrante d'en haut. Ils étaient au courant de rien. Ils ne savaient pas ce qui s'était passé. Ils ne savaient pas où ça s'était passé. C'est moi qui, confraternel, leur ai expliqué l'endroit où ça s'est passé, qui leur ai montré les marques de sang, qui leur ai un peu expliqué la trame. Ils ne savaient rien. Alors peut-être qu'il faudrait qu'ils se dépêchent parce que leur enquête a l'air de traîner. Oui, professionnellement parlant, ce ne sont pas des flèches. Je voulais signaler ça au passage.
Oui. Ben écoutez, c'est pas très étonnant. C'est la télévision d'État, donc on sait comment ça fonctionne. Merci Jean Ducard, merci d'avoir pris sur votre temps pour nous appeler.
De rien.
Et puis à demain à Minute la France.
À demain.
Voilà, bah c'était un autre témoignage sur cette affaire de Sartrouville qui est quand même particulièrement intéressante, il faut bien le dire, parce que quand il y a un détail que j'ai pas donné, c'est que la propriété d'Euromarché, les gens qui possèdent Euromarché, c'est la banque Lazare et le groupe suisse, je dis bien, faut pas que je fasse d'erreur de prononciation, Moss. Et là, donc, en fait, quand les petits beurs de là-bas parlent de l'intifada des banlieues, ils sont pas si éloignés que ça de la vérité. Agnès Torchebeuf, alors, le programme futur des conférences
du Centre Charlier, alors la semaine prochaine, le 4 avril, nous recevons Vladimir Dimitrievitch.
Ah oui, qui est un Serbe.
Qui est un Serbe d'origine, oui, donc Yougoslave et Serbe. Oui. Donc c'est le fondateur des éditions L'Âge d'Homme, comme on sait, qui viendra parler de son travail d'éditeur.
Oui, je signale à nos amis croates qu'il ne vient pas parler des problèmes balkaniques. Il vient parler d'édition.
Il pourrait peut-être les évoquer, il a certainement des choses intéressantes à dire aussi
pas
là-dessus.
Absolument mais...
Donc il parlera de son travail d'éditeur. Le 11 avril, donc, la conférence...
C'est lui qui a découvert Volkov.
Volkov, Zinoviev, Gay Paris. Il a réédité Chesterton aussi, etc.
C'est pas n'importe qui, quand même.
Non, c'est une maison très importante. Oui. Il a commencé tout seul, de rien. Enfin, et maintenant, c'est quand même une maison...
Ça doit vous plaire, ça, Nicolas Bonnal, l'homme qui a réédité Chesterton.
Tout à fait. Ça serait d'ailleurs un titre chestertonien, ça.
L'homme qui réédita Chesterton.
Alors ça c'est le 4 avril, Vladimir Dimitrievitch. Le 11 avril donc, on en a parlé longuement, la conférence exceptionnelle de Jean-Claude Chabrier. Le 18 avril, Jean de Vigry, historien, professeur à l'université de Lille, collaborateur de toujours du Centre Charlier puisqu'il avait participé à l'université fondatrice en 1980, qui viendra parler du bicentenaire de la constitution civile du clergé. C'est un spécialiste d'histoire religieuse moderne. Donc Jean de Vigry, c'est le 18 avril. Le 16 mai, nous recevons Claude Rousseau,
qui est philosophe, qui est maître de conférence à Paris-Sorbonne, Paris 4, qui vient poser et répondre une question importante, urgente. Le communisme est-il mort? Puisque depuis des mois, on nous dit que cette histoire-là s'est terminée. Il est peut-être peut-être important d'y réfléchir davantage. Donc Claude Rousseau, le 16 mai, le communisme est-il mort? Le 30 mai, un historien nouveau, François-Georges Dreyfus.
Remarquable, qui fait un remarquable travail sur Vichy. Voilà, et également, il vient de publier un bouquin très important sur l'Allemagne.
Donc l'auteur de la volumineuse et importante histoire de Vichy, parue chez Perrin il y a quelques mois. Et il viendra parler donc de Vichy, 1940-1944, l'épée et le bouclier, ce sera le 30 mai. Et puis le 13 juin, nous terminons ce cycle avec le docteur Michel Lefebvre, qui est médecin et qui viendra parler d'un autre sujet d'actualité et grave, également la procréation artificielle, au regard de la morale naturelle, là aussi, enfin, tout est à craindre.
Très beau programme.
Donc ce sera le 13 juin.
C'est une concurrence à peine loyale à Radio Courtoisie.
C'est pas le même jour.
Radio Courtoisie, c'est tous les jours.
Mais c'est pas le jour de votre émission. Donc.
Bon, c'est moins grave alors.
Voilà. Donc tout cela a lieu à la FACO, 115 rue Notre-Dame-des-Champs, le jeudi soir à 19h30.
Voilà. Jeudi soir, 19h30, à la FACO, 115 rue Notre-Dame-des-Champs. Je vous conseille d'aller suivre ces conférences, parce que maintenant que la mienne est passée, vous risquez plus rien. Pour vous montrer quand même comment, ce que c'est que Radio Courtoisie, c'est pas rien. Un auditeur nous téléphone, j'écoute votre émission sur mon Walkman. Vous savez, le Walkman, c'est le baladeur, enfin si on appelle ça un baladeur, c'est ce qu'on se met sur les oreilles pour marcher, ce qui permet de se faire écraser mieux par les voitures. Et je suis devant la mutualité, nous dit cet auditeur, il y a des CRS déployés partout depuis Jussieu pour la manif contre Boudarel. Vous savez que ce soir, l'Action française et d'autres organisations appelaient à manifester contre Boudarel.
Roger Olyndre.
Ben oui, bien sûr, le CNC de Roger Olyndre. Donc, cet auditeur conclut, c'est fou le monde qui se trouve là, une contre-manif est prévue, j'ai rarement vu un tel service d'ordre présent, ça barde. Alors, évidemment, vous comprenez, les pauvres CRS peuvent pas être partout. Hein. S'ils sont pour faire barrage de leur corps à l'extrême droite qui déferle dans les ruelles du quartier latin et qui va probablement immoler Boudarel sur l'autel de la vengeance, eh bien ils peuvent pas être à Sartrouville pour empêcher les beurs de se servir en petits gâteaux dans les euromarchés.
Les petits beurs.
Les petits beurs, c'est clair ça. Hein. Voilà, il faut parler, ma bonne Victoria.
Non, mais là, c'est la suite logique.
Le préfet a dit à midi que tout s'était terminé et bien terminé, pas de blessés chez les manifestants et juste 5 chez les gendarmes. Oui, effectivement, on peut dire que ça s'est très bien terminé. Ça me fait penser à ce qu'on disait, j'écoutais l'autre matin, une radio périphérique et luxembourgeoise, qui d'ailleurs est en ce moment pratiquement l'organe de désinformation le plus vigoureux qui sévit en France. Et j'entendais la chose suivante. Le calme est revenu à La Réunion. Le quartier du Chaudron a retrouvé sa sérénité. La raison en est simple, c'est que hier, Madame Mitterrand s'y est rendue, accompagnée de ses deux seuls gardes du corps du GIGN. Effectivement, moi, si je vais au Chaudron avec deux seuls gardes du corps. Et donc, elle est arrivée. Et quand elle est arrivée, je dis exactement ce qu'a dit le gars qui parlait à la radio. Quand elle est arrivée, les gens du Chaudron, les habitants du Chaudron ont été bouleversés de voir arriver en personne la femme du président de la République. C'est Fatima, quoi. Hein. Donc, elle s'est approchée et elle leur a parlé et elle les a touchés. Et alors, bien sûr, ces gens-là, immédiatement, se sont calmés. Les gens sont descendus. Ils ont applaudi, ils ont acclamé la femme du président de la République. Et le calme est revenu. Et elle est partie en leur promettant qu'elle allait transmettre en haut lieu, on se demande bien à qui, leurs revendications et témoigner de leur misère. Et elle a dit, cette femme qui est la femme du président de la République française depuis 10 ans, elle a dit, je n'aurais jamais pensé trouver en France un tel état de misère. Ben madame, faut ouvrir les yeux, sortir des grands palaces et des réceptions mondaines, parce que si vous voulez voir de la misère, je vais vous en montrer, vous n'avez qu'à me passer un coup de fil. Vous venez masquer, s'il vous plaît, parce que là, ma sensibilité esthétique peut pas supporter une chose pareille. Mais, là-dessus, ayant écouté Radio Luxembourg, qu'est-ce que je fais? Je me dis quand même, il faut passer sur autre chose, et je mets
Je me dis, on va voir jusqu'où va la propagande. Je mets France Info. Et là, j'entends quoi? J'entends nouvelle nuit d'émeute à La Réunion. Le quartier du Chaudron est en ébullition. On a foutu le feu. Enfin, il dit pas on a foutu le feu parce que lui, il est bien élevé. Les manifestants ont brûlé la mairie annexe du brûlé. Et ils ont blessé 4 policiers par balle. Voilà. C'était ce qui s'était passé pendant la nuit au Chaudron. Et Radio Luxembourg nous expliquait que la visite de la Madone des chirurgiens esthétiques avait réglé le problème. Ben, je suis désolé, il y a une radio qui ment, c'est la radio libre, enfin périphérique, RTL, et une radio qui dit la vérité, à la grande surprise générale, c'est France Info. Voilà dans quel pays on vit, ma bonne dame. Voilà, encore d'autres choses à dire. Il semble que la phrase « Seigneur, donnez-moi la tourmente » se trouve dans la prière du parachutiste. Exact. Rappelle que et un auditeur rappelle que l'auteur de la prière du parachutiste a été tué à Birakeim, et ben voilà, c'est exact aussi. Alors maintenant, il y avait une chose que je voulais dire et faire, mais je sais plus quoi. Oui, si je voulais dire la chose suivante, c'est que à partir de 8 heures, vous savez qu'on a été frappé par une très très triste nouvelle lundi, c'est la nouvelle de la naissance au ciel de Monseigneur Lefebvre. C'est triste, et puis à la fois, c'est pas triste, il faut bien dire les choses comme elles sont, parce que je crois qu'il continuera son travail là-haut. Mais on va rediffuser, parce que je crois que c'est l'occasion ou jamais, l'entretien qu'on avait enregistré, que Radio Courtoisie avait enregistré, entre Mgr Lefebvre et François Brignot, au mois de novembre 89. C'est pas très vieux. Et je pense que ça valait la peine de réentendre ce très très beau morceau de radio, je peux le dire, d'autant que je ne suis pas pour grand chose, puisque je ne parle pratiquement pas pendant cet entretien. Alors, on va donc écouter ça à partir de 19h, et en attendant...
20.
Qu'est-ce qu'il y a? De 20h, oui, 20h. Et en attendant, on va peut-être donner quelques
petites annonces,
non sans avoir... redonner auparavant la parole à Agnès Torcheveuf, car on a beaucoup de reportages en quasi-direct aujourd'hui, et elle va nous faire... Je voudrais, Agnès, que vous nous racontiez ce à quoi vous avez assisté hier, rue d'Ulm.
Oui, mais les CRS ont beaucoup de travail actuellement dans le 5e arrondissement, parce que hier soir, ils n'étaient pas à la mutualité, ils étaient rue d'Ulm, donc devant la librairie de Pierre Guillaume, au 12 rue d'Ulm, la vieille taupe qui est assaillie, assiégé, enfin, chaque semaine davantage et chaque semaine plus menacé. Ça dure, je crois, depuis janvier. Je crois que ça doit être la 10e semaine qu'il y a donc une manifestation contre l'existence de cette librairie, puisque en France, on n'a plus le droit d'ouvrir des librairies, de faire de la recherche historique. Le problème, c'est que ces manifestations, qui au départ se voulaient silencieuses et pacifiques, deviennent de plus en plus bruyantes et physiquement très très menaçantes.
Alors, bon, on peut dire violentes.
Violentes. Alors hier, il y avait 200 personnes d'une organisation, je ne sais pas si on peut la nommer.
Ben écoutez, c'est à vous de prendre vos responsabilités. Si vous avez envie de dire que c'est le bêtard, vous le dites. Si vous préférez pas dire que c'est le bêtard, vous le dites pas.
C'est le premier mardi où le bêtard était là, mais le bêtard, on l'avait vu vendredi au palais de justice.
Le bêtard, qui, je le précise pour nos auditeurs qui ne seraient pas au courant, est une organisation juive d'extrême droite qui entend faire la loi à Paris. Par exemple, le jour de la fête du cortège traditionnel de Jeanne d'Arc, le bêtard défilait armé dans Paris, je les ai vus, a pu lyncher un militant nationaliste sous les yeux de la police qui n'a pas bougé du tout. Il y avait 40 flics qui ont assisté au lynchage avec une sérénité admirable. Il faut leur rendre hommage. C'est-à-dire, ils sont d'un sang-froid magnifique.
Ce militant est du groupe Union Défense, et quand il a été pris ensuite après avoir été tabassé, mais ils se sont tellement bousculés pour le frapper qu'ils n'ont même pas réussi à l'esquinter plus qu'ils le voulaient. Ce militant a voulu descendre et il est tombé de la voiture de police tellement il avait peur que la police l'emporte quelque part dans une banlieue, vous savez, comme Orange Mécanique, et l'achève. Mmh. Voilà, on en est en France de la croyance en la police qui fait son devoir.
Oui. Alors,
Donc, cette organisation a attaqué hier...
Oui, c'est ça. Donc, il y a la manifestation tous les mardis, c'est de 6 à 7. Et depuis le début du mois de mars, il y a la police, parce que sinon, Pierre-Guillaume n'existerait plus depuis... Alors, hier, donc, il y avait à nouveau les CRS. Alors, les CRS sont arrivés en calot, sans par les mains dans les poches, mais quasiment. Et puis, ils se sont fait bousculer. Ils se sont mis devant la vitrine, ils ont protégé la vitrine. Et puis, très vite, ils se sont fait bousculer, enfin, agresser par les manifestants. Entre guillemets. Alors là, ils se sont d'abord ils ont riposté et ensuite ils se sont équipés. Ils se sont équipés de casques et de boucliers. Je pense que la semaine prochaine, ils viendront déjà avec leur équipement.
CRS6.
Voilà. Et bon, alors il y a eu des cris, puisque c'est une manifestation silencieuse. Les manifestants, entre guillemets, criaient les nazis dehors, et etc. Et puis le temps passait, et vers 7h30, normalement ça se tient jusqu'à 7h, mais à 7h30 ils étaient encore là, ils se sont énervés, je ne sais pas très bien pourquoi, et alors qu'il y avait 2 à 3 rangées de CRS devant la vitrine, ils ont lancé des boules de pétanque sur la vitrine. Comme la vitrine est, la vitre est blindée, enfin, la vitrine n'est pas tombée, mais elle a été évidemment cassée. Et là, les CRS là ont chargé, ils ont nettoyé le quartier.
Confirmant donc ce que disait notre ami Bonal à l'instant, CRSSS.
Voilà. C'est tout à fait clair. Exactement. Alors, je crois qu'il faut inviter un maximum de gens à se rendre le mardi soir à 6h moins le quart, rue d'Ulm, 12 rue d'Ulm.
Armés de leur courage.
Armés de leur courage, bien sûr.
Pour préciser les choses.
Il faut arriver avant le début, sinon on se fait lyncher.
Oui, on risque de partir autrement.
Non, mais moi je disais armé pour attaquer la librairie de Pierre Guillaume.
Ah, bah oui, c'est sûr.
Je ne voudrais pas qu'on me prenne pour un dossier nazi, quand même.
Donc il faut arriver à 6h moins le quart et ça dure 1h, 1h30.
Super, on y sera.
Merci Agnès Torchebeuf. Mardi prochain, si vous voulez assister à un spectacle intéressant de défense de la liberté, des libertés, parce que les libertés ça se met toujours au pluriel, vous allez donc rue d'Ulm et vous verrez. C'est beau, c'est bien, c'est réconfortant et surtout c'est utile dans le combat de l'antiracisme. Madame Victoria, des petites annonces.
Des petites annonces. Alors jeudi 4 avril, dîner, soirée alsacienne du 20e arrondissement.
Ah.
Avec Serge Martinez, président de la Fédération de Paris,
en plein
directeur
sacré alsacien,
de Minute la France.
Serge Martinez.
Participation aux frais, alsacien. 150 francs. Renseignements et inscriptions au 45 22 25 91, avant le 31 mars.
C'est où ça?
Eh bien, c'est...
restaurant?
Ah oh, mon Dieu, c'est pas écrit. Mais il faut vous renseigner, mais non, mais voilà. Dans le 20e, ils veulent pas le dire, là, ils veulent que vous vous inscriviez.
Moi, je croyais que c'était dans le restaurant
45,
de mon ami...
25, 91.
Je croyais que c'était dans le restaurant de mon ami Klaus, l'excellent restaurant qui s'appelle l'Alsaco et qui est 10 rue Condorcet. Super restaurant alsacien. Alors là, quelle cuisine magnifique.
Et la pub est
dès la fin du carême, je me précipite comme une bête. Qu'est-ce que je voulais dire j'ai une annonce à faire, c'est que la SERP vient d'avoir l'excellente idée de rééditer les poèmes de Fresne, dits les poèmes de Brasillac, dits par Freinet, et les discours et messages du maréchal Pétain, puisqu'il faut pour servir l'histoire, pour voir à quel point d'ailleurs cet homme est condamnable dans ses propos, il faut les écouter ces propos. Donc vous pouvez acheter les discours et messages du maréchal Pétain, ça vaut 70 francs, et les poèmes de Fresne 65 francs. Vous voyez, c'est moins cher les poèmes de Fresne que les discours et messages du maréchal Pétain. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. C'est à la Serpe, 6 rue de Beaune.
6 rue de Beaune, Paris 7e. Le 6 avril, François Brignot participera à une réunion organisée par l'association Pétain-Verdun de 15h à 19h.